RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La deuxième ascension du jour, le col de Peyressourde, plus de 13 km de montée avant de rebasculer dans la vallée vers Loudenvielle. Encore une côte, plus exactement un col, le col de Val-Louron. Et pour finir, la montée vers Pladadé. Voilà le plat de résistance de ce Tour de France. Dans cette deuxième étape des Pyrénées, il reste un peu plus de 50 km à parcourir. Un seul homme en tête, coéquipier de Chris Froome, le vainqueur sortant du Tour de France qui, on vous le rappelle, hein, si vous débarquez de la Lune, a abandonné la grande boucle en début d'épreuve. Mais depuis, eh bien, cela donne des ailes à certains.
Oui, si vous débarquez du ciel chez Sky et Christopher Froome, évidemment, c'était très bien.
En tous les cas, on a vu que chez Tinkoff, l'abandon de Contador avait donné des ailes à ses équipiers. Chez Sky, aujourd'hui, mais bon,
aujourd'hui,
jusqu'à présent, c'était pas ça. Hein.
Il n'est jamais trop tard, Christophe, pour bien faire. Effectivement, Rafał Majka, le Polonais, et Michael Rogers hier à Bagnères-de-Luchon ont fait briller les couleurs jaune fluo de l'équipe Tinkoff Saxo, les coéquipiers de Contador qui se sont bien remis en ordre de marche. Et aujourd'hui, pour la 17e étape, c'est vrai qu'on voit enfin du Sky à l'avant de la course, celui sur qui la formation britannique avait reposé tous ses espoirs. C'était l'Australien Richie Porte, copyright Pierre-Yves Leroux, Porte qui était passé par la fenêtre à de nombreuses reprises, donc en deuxième semaine, et qui ne joue plus le classement général. On est obligé d'envoyer des seconds couteaux, et parmi ces seconds couteaux aujourd'hui, donc l'Espagnol David Lopez dans la contre-attaque qui évolue à 1 minute 45 derrière l'homme de tête, le roule toujours, la brute nommée Vasil Kirienka, venu de Bélarus, le Biélorusse Vasil Kirienka, qui compte toujours dans cette ascension de Peyressourde. 1 minute 45 sur la contre-attaque. On rappelle que dans cette contre-attaque, on a des Français, et Pierre Rolland qui pointait ce matin à 13 minutes au classement général. Et là, il y a également dans cette échappée Cyril Gauthier, l'infatigable breton de l'équipe Europcar. Blaise Cadry est également présent, Amaël Moinard. Et puis côté stratégique, on a trois coureurs coéquipiers de l'équipe Movistar, des coéquipiers d'Alejandro Valverde. Et pour le classement général, on a Bauke Mollema, le Hollandais de l'équipe Belkin, qui était 10e du général ce matin et qui voit l'avance sur le groupe maillot jaune se creuser. 1,45 pour la contre-attaque, 3,20 pour le groupe maillot jaune. Bauke Mollema, 6e du dernier Tour de France, qui vient d'accélérer et qui relance le rythme de cette contre-attaque, parce qu'on ne s'entend pas dans cette contre-attaque. Notez également, évidemment, dans cette contre-attaque, des deux principaux concernés pour les classements de la montagne, Joaquin Rodriguez, l'Espagnol, qui a pris les points en haut du Portillon, et Rafał Majka, le porteur du maillot à poids. L'accélération de Bauke Mollema est en train de faire des dégâts. Il emmène dans sa roue seulement Giovanni Visconti, Nicolas Roche, il me semble qu'il y a là José Serpa également. C'est en train de se décanter dans cette contre-attaque.
Bauke Mollema, dont il faut se méfier, Cyril. Il était ce matin 10e au général avec un retard d'11 minutes 33. Il peut faire un beau rapproché au classement général, même si on rappelle, il est à 11 minutes quand même de Nibali. Mais enfin, il y en a certains qui vont commencer à s'inquiéter pour leur place au général.
Oui, il n'y a pas encore le feu, mais c'est vrai qu'il va falloir à un moment ou à un autre élever le rythme du peloton pour ne pas le laisser prendre trop de temps. On a encore un peu de temps quand même avant de réagir, ça c'est évident, mais il va falloir bien observer ce qui va se passer. Vous avez vu que dans ce groupe de contre-attaque, ça ne roulait pas, alors justement parce que il y avait des équipiers de certains leaders qui sont dans les 5-6 premiers ou dans les 10 premiers du classement général. Donc ces coureurs à un moment ne vont plus rouler avec Bauke Mollema. C'est ce qu'a compris d'ailleurs Kirienka, qui lui s'est dit, il y a trop de monde dans ce groupe, si j'arrive à sortir seul, ils vont se regarder, je risque de creuser un écart suffisamment important, et pourquoi peut-être ne pas aller chercher la victoire d'étape. On est dans une rupture de rythme. On a eu cette première ascension qui a été énorme, et là on est dans une phase où tout simplement, eh bien, le feu est en train de retomber, et c'est de cette situation que Kirienka a profité. Bauke Mollema ne l'entend pas de cette oreille là, et il a tenté de relancer renforcer l'allure. Trouvera-t-il suffisamment d'alliés pour augmenter leur rythme et creuser les écarts sur le peloton? Ça n'est pas évident. Et puis il y a toujours ce match, bien sûr, entre Majka et Rodriguez. Mais je vais quand même regarder où se situe Kirienka au niveau du classement de la montagne, parce qu'il a déjà fait quelques passages bien placés dans différents cols.
Cyril, comment expliquer que le feu soit retombé dans le peloton maillot jaune? Est-ce que les leaders du classement général se sont fait peur tout à l'heure dans la première ascension, lorsque le rythme était très élevé, et ils se disent il y en a encore pas mal à franchir de cols avant l'arrivée, on va peut-être calmer le jeu?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que si le peloton avait continué sur le même rythme, enfin la course continuait sur le même rythme, je peux vous dire qu'il y en aurait eu partout. Hein. Or, il y a un moment où on se dit attends, mon leader, il est comment là? Parce que bon, ça parle entre les différents équipiers. Donc, on va essayer de calmer le jeu. Puis, imaginons que vous avez les équipiers qui sautent et vous avez le moindre petit problème d'ordre, ne serait-ce que mécanique, et vous allez vous retrouver tout seul. Et là, devant, on va pas vous attendre. Hein, vous savez, Contador n'avait pas attendu Andy Schleck lorsqu'il avait... Bon, c'est vrai que c'est lui qui avait lancé les hostilités. Mais quand les hostilités sont lancées, vous pouvez avoir un soutien, on va pas vous attendre. La course ne va pas s'arrêter. Donc, on essaye de calmer un petit peu les choses en se disant, attendez, il y en a encore trois à monter. Donc, celui-là, si on peut le passer un peu traquette-traquette en récupérant un petit peu, on verra un petit peu plus loin comment les choses vont se passer et qu'il y a une gare tout simplement en train d'en profiter. Mais il va se passer des choses, hein. Il s'en est déjà passé, mais là on est
on sent l'impatience du druide là. Il se passe des grandes choses dans cette 17e étape,
les bases sur lesquelles elle est partie. De toute façon celui qui a les jambes molles aujourd'hui, il est cuit
par la fenêtre.
Ah, il est cuit.
Très bien, 4 minutes d'avance désormais pour Kirienka sur le groupe maillot jaune. On rappelle qu'il y a des hommes intercalés, il se passe des choses dans ce groupe d'intercalés. On va tout de suite retrouver la moto RMC qui je pense est au contact de l'homme de tête, Georges.
Oui, exactement, à 6 km du sommet désormais, devant Vassili Kirienka, le Biélorusse, avec le maillot complètement ouvert. Il fait 30 degrés désormais dans cette ascension. On vient de passer le village de Garin et ses magnifiques petites maisons en pierre et ses toits en ardoise, aucun lien avec Maurice Garin, vainqueur en 1903. La route qui est désormais, la pente qui est régulière jusqu'au sommet de cette ascension de Peyresso, on est à 8% de pente moyenne environ, et ça crée l'impression que nous fait Vassili Kirienka derrière. Les mains en bas du guidon, une belle machine avec son visage bien carré, le Biélorusse qui emmène gros, alors qu'il a devant lui le panneau indiquant les 5 derniers kilomètres. Son directeur sportif Servais Knavel qui s'est désormais placé derrière lui. Il y a de plus en plus de monde au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet de cette difficulté pyrénéenne.
Et Kirienka qui continue de creuser des écarts, il fait un sacré boulot, Fred. Là,
oui, Vassil Kirienka, 2 minutes 15 d'avance effectivement sur la contre-attaque. Tout à l'heure on a vu Mollema, 10e du classement général, se porter à l'avant de cette contre-attaque et accélérer d'un seul coup. Il a bien été contrôlé et repris, même si ça a coûté cher à Belkadri et Cyril Gauthier qui ont fait les frais de cette accélération. Tout est rentré dans l'ordre et à l'instant Jürgen Vandenbroek, le leader de l'équipe Lotto Bellisol, également présent dans cette contre-attaque, vient d'accélérer à son tour, toujours pris en chasse par un coureur de l'équipe Movistar, en l'occurrence c'était Jesús Herrada. On a vu David Lopez également, le coéquipier pied de Kirienka chez Sky, venir se porter dans la roue de Vandenbroek quand il a accéléré. Ce sera dur de revenir sur Kirienka car cet homme-là est une véritable bête à rouler. Vassil Kirienka, vainqueur d'une étape de montagne déjà l'an passé en 2013, c'était sur le Tour d'Espagne, et vainqueur d'une étape de la Route du Sud en 2011, c'était à Pau, c'était dans les Pyrénées, et à l'époque cette étape-là escaladait le port de Balès. Il a été quatrième du dernier championnat du monde du contre-la-montre. Kirienka, c'est une machine à rouler, effectivement il a le gabarit pour, mais depuis quelques années il s'est transformé vraiment en coureur capable d'emmener son leader Christopher Froome le plus haut possible dans l'école. Aujourd'hui il va tâcher d'en tirer les dividendes à titre personnel. 47 km de l'arrivée, on est dans le final du col de Peyresourde. Kirienka compte 2 minutes 10 sur la contre-attaque où l'on trouve, on vous le rappelle, des coureurs comme Mollema, Pierre Roland, Jürgen Vandenbroek, mais aussi les potentiel quatre meilleurs grimpeurs du Tour, Rafał Majka et Joaquin Rodriguez. Le groupe maillot jaune avec Vincenzo Nibali et les principaux prétendants au classement général est pointé à 4 minutes 15.
Des questions sur le hashtag RMC Live, Cyril, concernant Pierre Roland. Vélo Longchamp, je pense qu'il doit s'entraîner à Longchamp avec toi de temps en temps, nous dit: Pierre Roland est-il plus tacticien que ses coéquipiers d'hier? qu'est-ce que tu en penses, le druide?
Oui, Vélo Longchamp, je connais, parce que de temps en temps je roule à Longchamp, et à Longchamp vous avez des
sacrés rouleurs. Il y a Georges Quirino aussi, me semble-t-il, qui roule à Longchamp de temps en temps, non?
Comment?
Il y a Georges Quirino aussi qui roule à Longchamp.
Oui, il a fait ses débuts, des débuts prometteurs d'ailleurs. Bon, faudrait qu'il revienne.
Espérer porter le maillot blanc à Longchamp.
Ça manque de haute montagne quand même, ouais, autour de l'hippodrome. Hein.
Oui, mais il y a le col de Longchamp à passer à tous les tours. Non, c'est sérieux, hein, le col de Longchamp. Alors, si on arrive à le passer à plus de 40. Hein.
Ah ouais. Cyril, un petit mot concernant Pierre Roland, qu'est-ce que tu en penses?
Bien, Pierre Roland, il a réussi quand même 2-3 beaucoup sur le plan stratégique. Rappelez-vous l'Alpe d'Huez, sa première victoire où il passe relativement loin en haut du col de la Madeleine. Il y a un regroupement et là il contre, il revient sur les hommes de tête et va gagner l'étape. C'était fait avec beaucoup d'opportunités. Sur le Tour d'Italie cette année, dans des circonstances dont on ne connaît pas exactement la vérité, il sort avec Quintana et ça lui permet de venir faire quatrième du Tour d'Italie. Il a cette capacité effectivement à sentir ou à se trouver dans des situations où il va sentir le bon coup pour y aller. Espérons pour lui qu'il a les jambes, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas que d'aller dans le bon coup, il faut avoir les jambes, puisque ça monte ou ça descend. Donc il n'y a pas dans un premier temps de la stratégie à faire, quoi.
Très bien.
Et puis à signaler aussi que Gauthier et Kadri sont rentrés sur ce groupe, ce qui veut dire que le rythme a baissé.
Le rythme a baissé, oui, effectivement. On a l'impression qu'il laisse Kyriakos s'échapper, qui compte désormais 4 minutes 28 d'avance sur le groupe maillot jaune. Et le groupe intercalé est pointé à 2,24 de Kyriakos. Donc il continue de creuser les écarts. Voilà donc pour la situation de course. Nous sommes toujours dans le col de Peyresourde. On va pas tarder à le voir. En tous les cas, Kyriakos ne va pas tarder à passer au sommet dans quelques instants. On se retrouve pour la suite de l'Intégral Tour. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Si un jour vous cherchez la fréquence d'RMC, ayez le réflexe 3216. Toutes les fréquences d'RMC sur simple appel.
Alors, il y a beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live. On voit qu'aujourd'hui, c'est une grande étape de montagne. Alors, tout d'abord, il y a Lefty Chris qui est très inquiet, qui se demande où est passé notre Lucho National. Eh bien, nous sommes sans nouvelles de Luc Leblanc. Non.
Il a coincé dans le premier col, oui, je crois.
Non, mais je pense que la Lucho Mobilette a du mal aujourd'hui dans les cols. Et surtout, ses moyens de diffusion, puisqu'il est en panne. Notre ami Lucho, il s'était arrêté. Il avait plein de gens qui l'attendaient au relais étape avec plein de petits produits et quelques alcools locaux. Non, c'est râpé pour aujourd'hui. Vous n'entendrez pas Lucho, peut-être tout à l'heure à l'arrivée, sait-on jamais.
Un tour sans pour Luc.
Après avoir cassé la voiture, il a cassé l'antenne.
Voilà, au niveau matériel, c'est un tour sans, mais il garde une forme exceptionnelle.
Eh oui, et tout ça.
Marie nous demande: les Pyrénées sont-elles toujours plus décisives que les Alpes, ou cela dépend-il de l'ordre dans lequel on les franchit, Cyril?
C'est plus dans l'ordre dans lequel on les franchit. Hein. Soit on passe les Alpes en troisième semaine, soit on passe les Pyrénées. Donc c'est de toute façon le dernier massif que l'on passera qui fera la différence, mais qui la fera aussi parce que le premier massif aura bien entamé le potentiel de chaque coureur.
Très bien, je vais pas t'en reposer une parce que tu vas nous faire 3 minutes de réponse.
Pourquoi pas, j'aime bien répondre.
Ouais, je sais que tu adores répondre à nos internautes sur le hashtag.
Surtout quand les questions sont consistantes.
Et elles sont très bonnes, les questions de nos internautes et de nos auditeurs, évidemment, sur le hashtag RMC Live ou sur rmcsport.fr. Je reçois vos mails, j'en ai même reçu un tout à l'heure, félicitations, que je vous lirai tout à l'heure. Ça va nous faire rougir. En attendant, nous sommes toujours à 45 km de l'arrivée dans les derniers lacets de l'ascension de Peyresourde. Kyriakos seul en tête avec plus de 2 minutes d'avance sur le groupe intercalé. Le peloton maillot jaune est pointé avec un retard de 4 minutes 38. À tout de suite, la suite de l'Intégral Tour.
Appelez RMC au 3216, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
La deuxième ascension du jour, le col de Peyresourde, plus de 13 km de montée avant de rebasculer dans la vallée vers Loudenvielle. Encore une côte, plus exactement un col, le col de Val-Louron. Et pour finir, la montée vers Pladadé. Voilà le plat de résistance de ce Tour de France. Dans cette deuxième étape des Pyrénées, il reste un peu plus de 50 km à parcourir. Un seul homme en tête, coéquipier de Chris Froome, le vainqueur sortant du Tour de France qui, on vous le rappelle, hein, si vous débarquez de la Lune, a abandonné la grande boucle en début d'épreuve. Mais depuis, eh bien, cela donne des ailes à certains.
Oui, si vous débarquez du ciel chez Sky et Christopher Froome, évidemment, c'était très bien.
En tous les cas, on a vu que chez Tinkoff, l'abandon de Contador avait donné des ailes à ses équipiers. Chez Sky, aujourd'hui, mais bon,
aujourd'hui,
jusqu'à présent, c'était pas ça. Hein.
Il n'est jamais trop tard, Christophe, pour bien faire. Effectivement, Rafał Majka, le Polonais, et Michael Rogers, hier à Bagnères-de-Luchon, ont fait briller les couleurs jaune fluo de l'équipe Tinkoff Saxo, les coéquipiers de Contador qui se sont bien remis en ordre de marche. Et aujourd'hui, pour la 17e étape, c'est vrai qu'on voit enfin du Sky à l'avant de la course, celui sur qui la formation britannique avait reposé tous ses espoirs. C'était l'Australien Richie Porte, copyright Pierre-Yves Leroux, Porte qui était passé par la fenêtre à de nombreuses reprises, donc en deuxième semaine, et qui ne joue plus le classement général. On est obligé d'envoyer des seconds couteaux, et parmi ces seconds couteaux aujourd'hui, donc l'Espagnol David Lopez dans la contre-attaque qui évolue à 1 minute 45 derrière l'homme de tête, le roule toujours, la brute nommée Vasil Kirienka, venu de Bélarus, le Biélorusse Vasil Kirienka, qui compte toujours dans cette ascension de Peyresourde. 1 minute 45 sur la contre-attaque. On rappelle que dans cette contre-attaque, on a des Français, et Pierre Roland qui pointait ce matin à 13 minutes au classement général. Et là, il y a également dans cette échappée Cyril Gauthier, l'infatigable breton de l'équipe Europcar. Blaise Cadry est également présent, Amaël Moinard. Et puis côté stratégique, on a trois coureurs coéquipiers de l'équipe Movistar, des coéquipiers d'Alejandro Valverde. Et pour le classement général, on a Bauke Mollema, le Hollandais de l'équipe Belkin, qui était dixième du général ce matin et qui voit l'avance sur le groupe maillot jaune se creuser. 1,45 pour la contre-attaque, 3,20 pour le groupe maillot jaune. Bauke Mollema, sixième du dernier Tour de France, qui vient d'accélérer et qui relance le rythme de cette contre-attaque, parce qu'on ne s'entend pas dans cette contre-attaque. Notez également, évidemment, dans cette contre-attaque, des deux principaux concernés pour les classements de la montagne, Joaquin Rodriguez, l'Espagnol, qui a pris les points en haut du Portillon, et Rafał Majka, le porteur du maillot à poids. L'accélération de Bauke Mollema est en train de faire des dégâts. Il emmène dans sa roue seulement Giovanni Visconti, Nicolas Roche, il me semble qu'il y a là José Serpa également. C'est en train de se décanter dans cette contre-attaque.
Bauke Mollema, dont il faut se méfier, Cyril. Il était ce matin dixième au général avec un retard d'11 minutes 33. Il peut faire un beau rapproché au classement général, même si on rappelle, il est à 11 minutes quand même de Nibali. Mais enfin, il y en a certains qui vont commencer à s'inquiéter pour leur place au général.
Oui, il n'y a pas encore le feu, mais c'est vrai qu'il va falloir à un moment ou à un autre élever le rythme du peloton pour ne pas le laisser prendre trop de temps. On a encore un peu de temps quand même avant de réagir, ça c'est évident, mais il va falloir bien observer ce qui va se passer. Vous avez vu que dans ce groupe de contre-attaque, ça ne roulait pas, alors justement parce que il y avait des équipiers de certains leaders qui sont dans les 5-6 premiers ou dans les 10 premiers du classement général. Donc ces coureurs à un moment ne vont plus rouler avec Bauke Mollema. C'est ce qu'a compris d'ailleurs Kirienka, qui lui s'est dit, il y a trop de monde dans ce groupe, si j'arrive à sortir seul, ils vont se regarder, je risque de creuser un écart suffisamment important, et pourquoi peut-être ne pas aller chercher la victoire d'étape. On est dans une rupture de rythme. On a eu cette première ascension qui a été énorme, et là on est dans une phase où tout simplement, eh bien, le feu est en train de retomber, et c'est de cette situation que Kirienka a profité. Bauke Mollema ne l'entend pas de cette oreille là, et il a tenté de relancer renforcer l'allure. Trouvera-t-il suffisamment d'alliés pour augmenter le rythme et creuser les écarts sur le peloton? Ça n'est pas évident. Et puis il y a toujours ce match, bien sûr, entre Majka et Rodriguez. Et je vais quand même regarder où se situe Kirienka au niveau du classement de la montagne, parce qu'il a déjà fait quelques passages bien placés dans différents cols.
Cyril, comment expliquer que le feu soit retombé dans le peloton maillot jaune? Est-ce que les leaders du classement général se sont fait peur tout à l'heure dans la première ascension, lorsque le rythme était très élevé, et ils se disent il y en a encore pas mal à franchir de cols avant l'arrivée, on va peut-être calmer le jeu?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que si le peloton avait continué sur le même rythme, enfin la course continuait sur le même rythme, je peux vous dire qu'il y en aurait eu partout. Hein. Or, il y a un moment où on se dit attends, mon leader, il est comment là? Parce que bon, ça parle entre les différents équipiers. Donc, on va essayer de calmer le jeu. Puis, imaginons que vous avez les équipiers qui sautent et vous avez le moindre petit problème d'ordre, ne serait-ce que mécanique, et vous allez vous retrouver tout seul. Et là, devant, on va pas vous attendre. Hein, vous savez, Contador n'avait pas attendu Andy Schleck lorsqu'il avait... Bon, c'est vrai que c'est lui qui avait lancé les hostilités. Mais quand les hostilités sont lancées, vous pouvez avoir un soutien, on va pas vous attendre. La course ne va pas s'arrêter. Donc, on essaye de calmer un petit peu les choses en se disant, attendez, il y en a encore trois à monter. Donc, celui-là, si on peut le passer un peu traquette-traquette en récupérant un petit peu, on verra un petit peu plus loin comment les choses vont se passer et qu'il y a une gare tout simplement en train d'en profiter. Mais il va se passer des choses, hein. Il s'en est déjà passé, mais là on est.
On sent l'impatience du druide là.
Il se passe des grandes choses
dans cette 17e étape, l'une des étapes principales.
Les bases sur lesquelles elle est partie, de toute façon, celui qui a les jambes molles aujourd'hui, il est cuit.
Par la fenêtre.
Ah, il est cuit.
Très bien, 4 minutes d'avance désormais pour Kirienka sur le groupe maillot jaune. On rappelle qu'il y a des hommes intercalés. Il se passe des choses dans ce groupe d'intercalés. On va tout de suite retrouver la moto RMC qui, je pense, est au contact de l'homme de tête, Georges.
Oui, exactement, à 6 km du sommet désormais devant Vassili Kirienka, le Biélorusse avec le maillot complètement ouvert. Il fait 30 degrés désormais dans cette ascension. On vient de passer le village de Garin et ses magnifiques petites maisons en pierre et ses toits en ardoise. Aucun lien avec Maurice Garin, vainqueur en 1903. La route qui est désormais, la pente qui est régulière jusqu'au sommet de cette ascension de Peyrosso. On est à 8% de pente moyenne environ et ça crée l'impression que nous fait Vassili Kirienka derrière. Les mains en bas du guidon, une belle machine avec son visage bien carré, le Biélorusse qui emmène gros alors qu'il a devant lui le panneau indiquant les 5 derniers kilomètres. Son directeur sportif Servais Knavel qui s'est désormais placé derrière lui. Il y a de plus en plus de monde au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet de cette difficulté pyrénéenne.
Et Kirienka qui continue de creuser des écarts, il fait un sacré boulot, Fred. Là,
oui, Vassil Kirienka, 2 minutes 15 d'avance effectivement sur la contre-attaque. Tout à l'heure on a vu Mollema, 10e du classement général, se porter à l'avant de cette contre-attaque et accélérer d'un seul coup. Il a bien été contrôlé et repris, même si ça a coûté cher à Belkadri et Cyril Gauthier qui ont fait les frais de cette accélération. Tout est rentré dans l'ordre et à l'instant Jürgen Vandenbroek, le leader de l'équipe Lotto Bellisol, également présent dans cette contre-attaque, vient d'accélérer à son tour, toujours pris en chasse par un coureur de l'équipe Movistar, en l'occurrence c'était Jesús Herrada. On a vu David Lopez également, le coéquipier pied de Kirienka chez Sky, venir se porter dans la roue de Vandenbroek quand il a accéléré. Ce sera dur de revenir sur Kirienka car cet homme-là est une véritable bête à rouler. Vassil Kirienka, vainqueur d'une étape de montagne déjà l'an passé en 2013, c'était sur le Tour d'Espagne, et vainqueur d'une étape de la Route du Sud en 2011, c'était à Pau, c'était dans les Pyrénées, et à l'époque cette étape-là escaladait le port de Balès. Il a été quatrième du dernier championnat du monde du contre-la-montre. Kirienka, c'est une machine à rouler, effectivement il a le gabarit pour, mais depuis quelques années il s'est transformé vraiment en coureur capable d'emmener son leader Christopher Froome le plus haut possible dans l'école. Aujourd'hui il va tâcher d'en tirer les dividendes à titre personnel. 47 km de l'arrivée, on est dans le final du col de Peyrosourde. Kirienka compte 2 minutes 10 sur la contre-attaque où l'on trouve, on vous le rappelle, des coureurs comme Mollema, Pierre Roland, Jürgen Vandenbroek, mais aussi les potentiel quatre meilleurs grimpeurs du Tour, Rafał Majka et Joaquin Rodriguez. Le groupe maillot jaune avec Vincenzo Nibali et les principaux prétendants au classement général est pointé à 4 minutes 15.
Des questions sur le hashtag RMC Live, Cyril, concernant Pierre Roland. Vélo Longchamp, je pense qu'il doit s'entraîner à Longchamp avec toi de temps en temps, nous dit: Pierre Roland est-il plus tacticien que ses coéquipiers d'hier? qu'est-ce que tu en penses, le druide?
Oui, Vélo Longchamp, je connais, parce que de temps en temps, je roule à Longchamp, et à Longchamp, vous avez des
sacrés rouleurs. Il y a Georges Quirino aussi, me semble-t-il, qui roule à Longchamp de temps en temps, non?
Comment?
Il y a Georges Quirino aussi qui roule à Longchamp.
Oui, il a fait ses débuts, des débuts prometteurs, d'ailleurs. Bon, faudrait qu'il y revienne.
Espérer porter le maillot blanc à Longchamp.
Ça manque de haute montagne, quand même, ouais, autour de l'hippodrome, hein.
Oui, mais il y a le col de Longchamp à passer à tous les tours. Non, c'est sérieux, hein, le col de Longchamp. Alors, Cyril, on arrive à le passer à plus de 40, hein.
Ah ouais, ouais. Cyril, un petit mot concernant Pierre Roland, qu'est-ce que tu en penses?
Bien, Pierre Roland, il a réussi quand même 2-3 beaucoup sur le plan stratégique. Rappelez-vous l'Alpe d'Huez, sa première victoire où il passe relativement loin en haut du col de la Madeleine. Il y a un regroupement et là il contre, il revient sur les hommes de tête et va gagner l'étape. C'était fait avec beaucoup d'opportunités sur le Tour d'Italie cette année, dans des circonstances dont on ne connaît pas exactement la vérité. Il sort avec Quintana et ça lui permet de venir faire quatrième du Tour d'Italie. Il a cette capacité effectivement à sentir ou à se trouver dans des situations où il va sentir le bon coup pour y aller. Espérons pour lui qu'il a les jambes, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas que d'aller dans le bon coup, il faut avoir les jambes, puisque ça monte ou ça descend. Donc il n'y a pas dans un premier temps de la stratégie à faire, quoi.
Très bien.
Et puis à signaler aussi que Gauthier et Kadri sont rentrés sur ce groupe, ce qui veut dire que le rythme a baissé.
Le rythme a baissé, oui, effectivement. On a l'impression qu'il laisse Kyriakos s'échapper, qui compte désormais 4 minutes 28 d'avance sur le groupe maillot jaune. Et le groupe intercalé est pointé à 2,24 de Kyriakos. Donc il continue de creuser les écarts. Voilà donc pour la situation de course. Nous sommes toujours dans le col de Peyresourde. On va pas tarder à le voir. En tous les cas, Kyriakos ne va pas tarder à passer au sommet dans quelques instants. On se retrouve pour la suite de l'Intégral Tour. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour pour la 17e étape de la Grande Boucle aujourd'hui, deuxième étape pyrénéenne avec pas moins de 4 difficultés. Nous sommes pour l'instant dans les derniers lacets de l'ascension du col de Peyresourde. On va tout de suite retrouver la moto RMC, Georges Quirino, qui se trouve, me semble-t-il, derrière l'homme de tête, derrière Kyriakos, le Biélorusse de la formation Sky. Georges.
Oui, on va se positionner dans les derniers lacets même de cette ascension, parce qu'elle est impressionnante. Il est impressionnant ce final de l'ascension de Peyresourde. C'est une suite de lacets. Il n'y a pas trop d'arbres là au sommet. Et c'est vraiment magnifique. On est un petit peu sous les nuages désormais. On voit tout vraiment le mur de monde qui attend les coureurs. Et on voit derrière nous, effectivement, Vassili Kyriakos, toujours aussi impressionnant. Le maillot ouvert. On a une grande perspective là sur toute la course. Et on peut distinguer vraiment l'avantage assez évident du Biélorusse, qui compte bien, allez, bien 400-500 mètres d'avance, même plus, sur ses premiers poursuivants, dont on voit les véhicules suiveurs. Il va passer en tête au sommet, Vassili Kyriakos, c'est une certitude désormais. Et derrière, il faudrait que ça réagisse pour que ça rentre un peu plus vite, ou que ça rentre même dans la descente. Ça sera difficile pour même voir les poursuivants rentrer dans la descente, parce que là, l'avantage est désormais assez conséquent pour Kyriakos, le Biélorusse, l'homme en tête dans les derniers lacets de cette ascension. Il reste un petit peu plus d'un kilomètre pour Kyriakos.
Oui, un peu plus d'une 40 d'avance sur deux hommes intercalés, Rada et Roche, hein, coureurs de la formation Tinkoff-Saxo. Les autres poursuivants sont un peu plus loin à 2,10, et le peloton maillot jaune qui continue de voir Kyriakos s'envoler, Cyril, puisque l'écart va atteindre les 5 minutes dans quelques instants.
Oui, on commençait à s'ennuyer depuis 40 secondes. Eh bien, les choses sont en train de bouger dans le groupe de tête, puisque Fuglsang est en difficulté. L'équipier de Nibali, lui qui aurait pu servir de relais, eh bien, il n'a pas l'air trop saignant. Et puis, on a vu aussi Arashiro qui vient d'accélérer en tête du groupe. Et vraisemblablement que notre ami Roland va tenter quelque chose. Et on est en train de revenir tout simplement sur Errada et Roche. et l'écart qui était de plus de 2,25 tout à l'heure est tombé à 2,09, c'est-à-dire qu'on se rapproche maintenant de Kirienka.
Et puis, puisqu'on est au plat d'Adet à quelques kilomètres de la frontière espagnole, quelques informations qui nous viennent de la péninsule ibérique. Alberto Contador qui avait abandonné lors de la 10e étape, victime d'une violente chute, victime d'une fracture du tibia, eh bien on l'annonçait presque dans la foulée de son abandon l'autre jour ici sur ces mêmes ondes. Il renonce à l'instant à participer à la Vuelta, il n'a toujours pas repris. Il vient de s'exprimer en déclarant que c'était une mauvaise journée, que la guérison de sa plaie devenait compliquée et qu'il n'y avait toujours pas de date de reprise de l'entraînement pour lui. Du coup, adieu à la Vuelta, adios la Vuelta à España pour Contador, qui donc aura manqué ses deux objectifs, ses deux grands objectifs de la saison. Peut-être sera-t-il rétabli pour la fin de saison, championnat du monde à Ponferrada en Espagne, mais sans avoir couru la Vuelta, ce sera très compliqué d'être compétitif. Tour de Lombardie peut-être, mais il est plus vraisemblable que ce forfait pour la Vuelta signifie sa fin de saison au coureur de 31 ans.
Est-ce qu'on a des nouvelles? J'étais quand même très surpris de l'optimisme. De l'optimisme qui était évoqué par son entourage en disant il va faire le Tour d'Espagne.
Mais il ne connaissait pas encore la gravité de la blessure, je pense, hein, Cyril.
Non, mais même sans ça, vous avez une fracture au niveau d'une jambe, vous allez avoir une fonte musculaire pendant 3 semaines qui va être énorme. En aucun cas vous aurez refait vos masses musculaires et retrouvé votre puissance pour participer à un grand tour. C'est de l'utopie. Enfin, c'était de l'utopie, ouais. Et on s'en rend compte aujourd'hui. Vous savez, on fait pas de miracle quand même. Une clavicule, c'est pas une jambe. Hein.
Ouais. Fred, est-ce qu'on a des nouvelles concernant Chris Froome? Parce que lui aussi a abandonné le tour, lui aussi victime de fractures, hein, même si a priori ces fractures étaient moins importantes pour le coureur britannique, vainqueur du Tour de France l'année dernière. Lui aussi, je crois, avait comme ambition de disputer la Vuelta. Est-ce qu'on a des nouvelles de lui, non?
Non, pas de toute fraîche, mais lui sera bel et bien, selon toute vraisemblance, au départ de la Vuelta qui s'élancera le 23 septembre. Le 23 septembre, lui qui avait donné rendez-vous à Alberto Contador 5 jours après son propre abandon, le jour de l'étape d'Arenberg, lui qui avait abandonné avant même les pavés, on s'en souvient, sur cette 5e étape, en apprenant quelques jours plus tard l'abandon de Contador. Il lui avait dit: j'espère bien te revoir dès le départ du Tour d'Espagne. Lui souffrait de fractures moins importantes, et sur le haut du corps, elles étaient multiples, mais elles étaient moins importantes et moins handicapantes pour la reprise d'un entraînement régulier que celle d'Alberto Contador. Christopher Froome, qui était rapidement rentré à Monaco chez lui, et visiblement lui a repris l'entraînement et sera bel et bien opérationnel pour la Vuelta qui, on le rappelle, s'élancera dans tout juste un mois, le 23 août.
Exactement, de Jerez de la Frontera,
si,
en Andalousie, 43 km 300, et nous sommes dans les derniers hectomètres de ce col de Peyresourde, deuxième difficulté de la journée. On va retrouver la moto RMC, Georges Quirino.
Oui, à moins d'un kilomètre désormais pour Vassili Kirienka, le coureur de la formation Sky, le Biélorusse, à l'avant de la course. Son écart est en train de faiblir, hein, avec ses poursuivants, avec Errada notamment derrière, accompagné d'un coureur d'équipe Tinkoff, il me semble que c'est Nicolas Roche. Et derrière, on voit que ça réagit également dans les autres poursuivants. On voit les coureurs de l'équipe Europcar qui sont aux avant-postes dans ce groupe pour les derniers lacets. C'est une succession de 6-7 lacets pour en terminer avec ce sommet du col de Peyresourde qui culmine à 1569 mètres d'altitude. Ensuite, c'est une longue descente très rapide.
Longue descente très rapide avant de remonter à nouveau. Ça n'arrête pas de monter et descendre tout au long de cette 17e étape du Tour de France. Alors évidemment, on va s'intéresser au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'arrivée tout à l'heure au plat d'Adet. On va s'intéresser aux favoris du classement général, à ceux qui sont bien classés. Et quand on pense aux garçons bien classés, on pense évidemment évidemment à Thibaut Pinot ou encore à Romain Bardet, même si évidemment Romain Bardet a connu hier une journée sans Cyril. Ça arrive, hein, ça arrive de plus en plus depuis que la lutte antidopage là aussi est plus importante. Pendant des années, il y avait plus de défaillance dans le Tour de France. En tous les cas, tous les grands leaders ne connaissaient plus la défaillance, mais désormais, c'est le retour de la défaillance, de certaines défaillances en tous les cas, et ça, c'est plutôt rassurant.
Oui, c'est vrai, à l'époque où c'était les médecins qui gagnaient les courses et non pas les coureurs, on était capable de prévoir les défaillances et donc de refaire les niveaux, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi il y allait avoir une défaillance, et la défaillance, bien sûr, n'arrivait pas. Aujourd'hui, quand vous avez... Quand vous avez vidé le réservoir, comme dirait Frédéric, quand vous avez vidé le réservoir, ben, il vous faut un certain temps pour le remplir. Et le remplir, eh bien, il y a des lois physiologiques qui sont là. J'ai bien dit des lois, ce qui veut dire qu'il faut un certain temps. Et c'est pour ça, aujourd'hui... compte tenu de ce qui s'est passé hier pour Romain Bardet, j'espère qu'il aura eu le temps de refaire justement les niveaux, parce que s'il ne les a pas refaits totalement, il risque quand même dans la dernière ascension d'avoir quelques soucis.
Alors que Kyrianka passe à l'instant même au col de Peyresourde, on va évidemment déclencher le chronomètre pour savoir quel est l'écart réel avec les hommes intercalés et avec le groupe maillot jaune. Alors on parlait de Romain Bardet qui a donc connu sa journée sans hier, qui a perdu sa place sur le podium, qui a perdu également son maillot blanc de meilleur jeune. Comment a-t-il récupéré? Eh bien, ce matin, Olivier Schwartz et Pierre-Yves Leroux sont allés poser la question à Vincent Lavenue. Ils voulaient poser la question à Romain Bardet, mais le service communication a protégé ce matin Romain Bardet et il ne l'a pas mis entre les mains des féroces journalistes. En revanche, le manager de la formation, Vincent Lavenue, s'est exprimé. On l'écoute.
Elle était déçue, bien sûr. C'était le maillot blanc, c'était quelque chose, c'est toujours quelque chose de très important pour lui. Voilà. C'est vrai qu'une 36, je crois, au général, ça me pâme beaucoup. Voilà. Maintenant, si Pinot aujourd'hui est en difficulté, pourquoi pas, hein. On, dans la tactique, il y a encore des tas de scénarios qui peuvent se révéler. Et on sera attentif. On a un avantage, c'est que l'équipe Agenda Mondiale est quand même assez forte collectivement. Et qu'on peut, à un moment donné, si on observe des faiblesses chez les adversaires, peut-être peser grâce au collectif. Maintenant, encore une fois, dans tous les sens, tout peut arriver.
Mais votre arme la plus forte, c'est Jean-Christophe Perrault. D'ailleurs, vous le disiez déjà il y a une dizaine de jours, quand tout le monde s'intéressait qu'à Romain Bardet et à Thibaut Pinot.
Mais aujourd'hui, dans la configuration qui est la course aujourd'hui, effectivement, Jean-Christophe est bien placé. Il est très bien, il est en bonne position. Voilà. Encore une fois... Thibaut, il y a une petite minute avec Thibaut devant, 1:02 je crois de mémoire, 1:30 avec Valverde. Voilà, si ça reste demain soir qu'on est dans cette configuration-là, c'est plutôt pas mal. Si on peut prendre un peu de temps, bah, Valverde, c'est encore mieux. Voilà, mais attention, Romain n'a pas dit son dernier mot non plus.
Voilà, Vincent Lavenue qui s'exprimait à propos de ces deux leaders, Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault qui reste quatrième et cinquième au général. Le sommet de Peyresourde, il y a quelques instants passé par Joachim Rodriguez dans le groupe intercalé, Fred.
Oui, avec une accélération, c'est le scénario classique depuis le début de l'étape et presque depuis le début du tour de Joachim Rodriguez qui a perdu hier son maillot à poids au profit de Rafał Majka, le polonais de l'équipe Tinkoff. Ces deux-là sont dans la contre-attaque qui évolue à 1 minute 50 de Kyrianka. On rappelle que le peloton maillot jaune est à 5 minutes 30 du Biélorusse qui est en tête de la course à 40 km de l'arrivée. Surprenant de voir que Rodriguez a emmené dans sa roue Majka sans que Majka, maillot à poids sur le dos, ne lui dispute les points ici au col de Peyresourde. Il ne l'a pas sauté, il n'a même pas disputé le sprint. Majka qui semble jouer battu, Cyril. Manque de panache, manque d'ambition de la part de Rafał Majka qui a déjà été devancé tout à l'heure au Portillon et qui là n'a pas vraiment fait le sprint. Il a l'air de jouer battu sur cette lutte pour le maillot à poids.
Bien, oui, effectivement, mais je pense qu'il connaît les qualités.
Et alors, s'il y a des points à prendre,
Il a pris le maximum qu'il pouvait prendre, et s'il s'était mis à bloc pour faire le sprint, N'oublions pas qu'il a été en difficulté sur la première ascension et qu'il a été lâché. Et qu'il est peut-être content de ne pas trop faire la guerre et quand même d'aller chercher des points et de ne pas trop perdre, mais surtout pas se mettre dans le rouge tout de suite.
Et peut-être que lui a des rêves de deuxième victoire d'étape, lui qui s'est imposé.
Je ne pense pas. Il a été lâché sur le premier à la pédale alors qu'il faisait la course. Je pense qu'il les a pas, les gens.
Très bien.
Très bien, on verra ça dans quelques minutes. Le peloton qui est toujours dans le dernier kilomètre d'ascension de ce col de Peyresourde. On rappelle que Kyrianka est désormais dans la descente. Il possède une minute 17 d'avance sur deux hommes intercalés, Irada et Roche. Le groupe Mollema est pointé un peu plus loin avec un retard d'une 48. Et puis le peloton maillot jaune, donc avec 5 minutes 31 de retard. Le peloton maillot jaune toujours emmené, Cyril, par les coéquipiers de Denis Bali. Mais ça monte beaucoup moins rapidement que dans la première ascension du jour.
Ah oui, ils ont carrément mis le frein à main. Ils ont carrément mis le frein à main. Ils laissent l'échappée se développer. Et il y a un moment, et je pense que dans le prochain col, peut-être dans la descente également, dans le prochain col, il y a quand même des équipes qui vont être obligées de prendre en considération cette échappée, hein, puisque nous avons Bokke Mollema qui est à l'avant, et que Bokke Mollema, il fait partie des gens qui vont devenir dangereux, et
oui,
dans la mesure où il a déjà repris. Enfin, il a repris. Bien sûr, nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée, mais l'écart qui est le sien actuellement devient quand même très important. Il y a également Vandenbroek, même si Vandenbroek semble un petit peu juste dans le groupe de tête.
Voilà, Mollema qui au classement général virtuel, hein, c'est-à-dire ce ne sera pas le classement tout à l'heure à l'arrivée, aurait repris 4 places. Il était ce matin 10e avec un retard d'un peu plus de 11 minutes. Il serait désormais 6e avec un retard de 7,51 et devant lui, les Français évidemment qui vont devoir surveiller puisque Bardet, Perrault et Pinot sont les 3 prochaines victimes désignées de Mollema s'il parvient évidemment à continuer de creuser les écarts sur le peloton.
Je ne serais pas étonné que les équipiers de Koenig, comme ils l'ont déjà fait par le passé, viennent en tête de peloton dans cette descente et vraisemblablement dans le pied du col, accélérer l'allure du peloton pour remettre les choses en ordre.
Bon, on espère évidemment la grande bagarre tout à l'heure. Nous sommes maintenant à 36 km de l'arrivée pour l'homme de tête, alors que le peloton maillot jaune, Fred, vient de passer au sommet.
À Peyresourde, effectivement, au col de Peyresourde, 5 minutes 20 de retard pour le groupe maillot jaune où l'on trouve une trentaine de coureurs. Thibaut Pinot est bien entouré, Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault également. Pour l'instant, c'est le calme avant la tempête dans ce groupe maillot jaune. L'homme de tête, Vassil Kyrianka, est toujours dans la descente de Peyresourde avec 1 minute 55 sur la contre-attaque. Deux hommes intercalés entre Kyrianka et la contre-attaque, Jesús Herrada et Nicolas Roche, l'Espagnol et l'Irlandais, à 1 minute 20.
Très bien, il est 15h58, vous écoutez RMC l'intégral tour, on revient dans quelques instants, restez avec nous, on vous promet la bagarre. Cyril en rêve tellement de cette bagarre qu'elle va bien finir par arriver dans les deux dernières ascensions. Oui, Cyril.
Elle est présente, la bagarre, en ce
oui,
moment.
Non, mais la bagarre pour le général, évidemment, c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement avec nos petits Français si performants depuis le début de ce Tour de France. Allez, à tout de suite, juste après les infos de 16h.
RMC intégral tour.